Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. Nous sommes en train d'étudier, faire une lecture, une étude suivie de cette première épître de Pierre. C'est toujours bien de suivre un livre, une lettre. Quand vous recevez une lettre, je pense que vous la lisez d'un bout à l'autre, du début jusqu'à la fin. Et vous ne lisez pas un morceau et puis vous laissez 2 ans après, vous lisez, venez lire un autre morceau. Hein? Non, on lit tout. Et je pense que c'est ainsi qu'on doit faire avec la parole de Dieu aussi. Donc la lettre, on la prend, on la lit, on la médite. Et on est arrivé au chapitre 2 de cette épître. Nous allons lire les versets 1 à 3, juste les versets 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, l'envie et toute médisance, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et nous te prions que tu disciplines nos cœurs et nos pensées, que tu fasses silence dans nos cœurs afin que ta parole puisse y pénétrer. Et nous te prions que tu nous éclaires par ton esprit, que tu nous donnes la sagesse nécessaire pour saisir les choses et que tu nous donnes la soumission aussi pour les mettre en pratique. Nous te prions ces choses pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc le chapitre 2 n'est pas, le fait d'avoir un chapitre 2 n'est pas inspiré. Hein. Dans, à l'origine, hein, il n'y avait pas de verset donc ni de chapitre. Ça nous aide pour nous repérer, mais c'est les hommes qui ont ajouté cela et c'est bien. Mais parfois, ça force un peu notre lecture. Hein. On dit on arrive au chapitre 1, on arrive au chapitre 2, donc c'est un autre chapitre. Et on oublie ce qu'on a fait auparavant et on passe par-dessus le fait que c'est une lettre et que c'est un tout. Et donc, on ne peut pas dissocier comme cela les choses. Donc, ce que nous avons lu, les trois premiers versets de ce chapitre 2, eh bien, sont une exhortation qui se situe dans la partie, je pourrais dire, d'exhortation qui a commencé au chapitre 1 et au verset 13, où l'apôtre Pierre dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement ». Donc, il faudrait lire toutes ces choses où il parle de la sainteté, de l'obéissance dans la sainteté que doivent avoir les croyants, de leur marche, leur conduite dans la crainte, de l'amour qu'ils doivent avoir les uns pour les autres. On avait vu ça la dernière fois. Puisqu'ils ont été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, cette parole, c'est celle qui leur a été annoncée par l'Évangile. À la fin de ce chapitre 1. Et puis il dit, rejetant donc toute méchanceté. Donc on voit ici qu'il y a un lien, parce qu'il dit, rejetant donc. Hein, le mot donc ici, c'est une conjonction qui dit qu'il y a un lien avec ce qu'il vient de dire et tout ce qu'il vient de dire. Hein. Et là, il est en train d'exprimer, d'exhorter sur les conséquences du salut. Hein. Il a décrit le salut jusqu'au verset 13, on pourrait dire, verset 12. Et puis ensuite, maintenant, il leur montre comment ils doivent agir en conséquence de ce salut et de cette nouvelle vie, de cette nouvelle nature. Donc, on comprend quand on regarde ces trois versets que nous avons lus, qu'il y a quelque chose qui doit être rejeté, il y a quelque chose que l'on doit rechercher, et puis il y a une raison, hein, ou des raisons pour lesquelles on doit agir ainsi. Donc, ce qui est commandé, bien sûr, c'est lié à ce qui est dit auparavant, et particulièrement ce que l'apôtre Pierre vient de dire quand il exhorte au verset 22 du chapitre 1 les chrétiens à s'aimer ardemment d'un amour sincère, il avait dit, hein, les uns pour les autres. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et donc, pour pouvoir faire cela, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Et c'est ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 2. « Rejetant donc, et puis il y a des choses que l'on doit rechercher, désirer, comme des enfants nouveau-nés, et puis à la raison, afin que l'on puisse croître, il dit. Hein. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et donc, naître de nouveau, hein, parce qu'il parlait de cela dans les versets précédents, ça n'est qu'un début. Quand on regarde notre verset ici, comme toute vie, quand on vient à naissance, quand un bébé naît, ça n'est que le début. Hein. Il n'est pas juste pour rester comme il est, il naît pour pouvoir grandir et pour croître. Et c'est ce qu'on voit précisément, je crois, dans ces trois versets. L'exhortation principale du verset, c'est le verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » Mais pour quelle raison ? « Afin que vous croissiez pour le salut. » Et comment cela peut-il se faire ? Eh bien, en rejetant certaines choses et en recherchant ici d'autres. Et ce que l'on attend, hein, normalement, d'un bébé, c'est qu'il grandisse, c'est qu'il croisse. Et c'est exactement ce que Pierre attend ici de la part des croyants. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Croître pour le salut ». Croître pour le salut. Et nous voulons considérer plusieurs choses. Premièrement, c'est que la croissance spirituelle est caractéristique de la vie nouvelle. La croissance spirituelle est caractéristique de la vie nouvelle. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez. » Voilà la raison de toute l'exhortation ici. Donc, la croissance spirituelle est caractéristique de la vie nouvelle. L'apôtre Pierre avait dit « Vous avez été régénérés par une semence incorruptible. » Alors, croissez. On pourrait imaginer des chrétiens qui disent « Ok, d'accord, je suis sauvé, je suis au Seigneur, etc. Maintenant, et après ?» Eh bien, Pierre dit « Eh bien, grandissez, croissez. » C'est exactement ce qui est attendu ici. Donc, la croissance spirituelle est caractéristique de la vie nouvelle. La croissance est une caractéristique de toute vie. Prenez la vie autour de vous, observez autour de vous. Hein. Ce qui caractérise la vie, c'est la croissance. Hein? Quand le printemps arrive, ça se voit bien, n'est-ce pas ? Quand on a on a un terrain, il est tout vide, et puis le printemps commence à arriver, etc. Ben, il y avait de la vie en dessous, on ne le voyait pas, et puis, à un moment donné, on voit toute cette vie qui se met à pousser. Où que l'on se tourne, partout où il y a la vie, il y a forcément de la croissance. Hein? Croissance du bébé qui vient de naître, mais croissance aussi de la graine qu'on a plantée en terre et qui peut devenir un arbre. La vie se manifeste par la croissance. La seule chose qui stoppe la croissance, c'est la mort. La maladie ne stoppe pas la croissance. Elle la ralentit. Elle la fait prendre parfois une certaine courbe, une certaine orientation. Mais la mort seule stoppe la croissance. Donc, quand il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a mort. Et c'est ce que Pierre dit ici. Si vous avez été régénéré, vous avez reçu une nouvelle vie, alors cela doit se manifester par une croissance. Vous devez croître. Et ici, croître, bien sûr, c'est grandir, c'est se développer, c'est s'épanouir. Et c'est ce que l'on remarque dans toute vie. Et donc, dans la vie chrétienne, il en est de même, elle sait que ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans tout l'univers, elle se caractérise par la croissance et par le développement. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ, hein, il a pris comme image pour montrer à ses interlocuteurs ce que c'est que de se convertir, il a pris l'image de la croissance, tout simplement. Hein. Marc chapitre 4, verset 8, il dit « Il parle de la semence qui tombe sur des terrains, vous vous rappelez de cette parabole. Et puis il y a la bonne terre dans laquelle tombe la semence. Il dit, eh bien, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et qui croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et ça, c'est la conversion réelle, hein, la régénération réelle. La graine tombe et puis elle croît. Il y a une vie et qui se manifeste par la croissance. La Bible affirme que Dieu est pleinement à l'œuvre dans la croissance spirituelle du croyant. Rappelez-vous l'apôtre Paul, hein, quand il corrige l'église de Corinthe, là où il y avait des gens qui disaient « Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Céphas. » Et puis d'autres disaient « Moi, je suis de Christ. » Et puis Paul dit « Mais qui sommes-nous ? Nous sommes des serviteurs. » Et il dit ceci, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ok, quand il parle de l'action de Dieu dans le salut des âmes, il parle du fait que en tant qu'homme, on plante, on arrose, mais le plus important, c'est vous pouvez planter, vous pouvez arroser, si ça pousse jamais, hein, le plus important, c'est que il y ait une croissance. Et Dieu est à l'œuvre dans cette croissance. Et donc, quand il n'y a pas de croissance, c'est qu'il n'y a pas de vie. La croissance est caractéristique de la vie nouvelle. Et le temps nous manquerait, chers frères et sœurs, pour évoquer tous les appels à la croissance qu'on trouve dans l'Écriture, mais il y en a beaucoup. Je vais vous en citer juste deux. L'apôtre Pierre lui-même, au chapitre 3, deuxième épître, chapitre 3, verset 18, il dit ceci, 2 Pierre 3, 18, il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Donc c'est un appel à grandir, à se développer dans la connaissance de Jésus-Christ. Et puis en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, où l'apôtre Paul parle de tout ce que Dieu a donné pour le perfectionnement des saints, afin qu'il travaille à l'édification de l'Église, il dit, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère du corps de Christ. Et il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait, voilà, donc il y a une croissance ici, on parvient à l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc la croissance qui est attendue de cette vie, c'est vraiment une croissance qui va jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Et parfois dans l'Écriture, il est question de progrès, de marcher de progrès en progrès, il est question aussi d'augmentation. Mais quel que soit le mot qui est utilisé, le principe de la croissance est intimement attaché à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que la croissance est une caractéristique de toute vie. Mais quelle est la particularité de la croissance chrétienne ici? On peut croître dans différents domaines, n'est-ce pas? On peut croître dans les arts, on peut faire des progrès en littérature, on peut faire des progrès en sport. Et à l'école, je crois qu'on est attaché au progrès des élèves dans la maîtrise de quelques disciplines. Ici, l'apôtre Pierre parle d'une croissance particulière. Regardez bien le verset, il dit « Afin que vous, par lui, par donc la parole, vous croissiez pour le salut. » Donc c'est la croissance pour le salut ou dans le salut. Il s'agit ici de grandir dans les choses qui sont liées au salut. Le salut, en fait, n'est pas quelque chose de statique, mais de dynamique, on pourrait dire. On pourrait penser, hein, je suis sauvé, c'est bon, c'est fini. Et puis c'est comme si c'était quelque chose que j'ai obtenu, hein, comme un diplôme que j'ai obtenu, et puis je pose ça sur l'étagère, et puis c'est là. Hein. Il peut me servir comme il peut ne pas me servir. Il ne s'agit pas de cela quand on parle du salut. Vous voyez que l'apôtre Pierre dit ici qu'il faut croître pour le salut. L'apôtre parlait déjà du salut. L'apôtre Paul, par exemple, parle du salut que l'on a à mettre en œuvre. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. On trouve ça en Philippiens chapitre 2 et au verset 12. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce salut. Il y a beaucoup de choses que ce salut doit produire en nous. Et l'apôtre Pierre dit que le salut a été révélé, n'est-ce pas, mais qu'il est prêt aussi à être révélé. Rappelez-vous au verset 4 qu'il avait dit que vous avez été régénérés pour une espérance vivante, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé. Et on comprend bien, dans la vie, on le dit souvent, qu'il y a un aspect passé au salut, un aspect présent et aussi un aspect futur. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés encore aujourd'hui et nous serons sauvés. Nous avons été sauvés de la condamnation, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui sont régénérés, ceux à qui l'apôtre Pierre parle ici quand il dit « vous avez été régénérés », ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont été sauvés de la condamnation du péché. D'accord ? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais actuellement encore, ceux qui ont été sauvés, bien ils le sont toujours, continuent à être sauvés du pouvoir du péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « le péché n'aura point de pouvoir dans votre corps mortel ». Et nous sommes appelés à résister au péché, à résister au diable. Donc on continue à être sauvés de ce pouvoir du péché. Alors bien sûr, il y a des chutes, il y a des luttes, mais on continue. Et puis, un jour, on sera complètement délivré, même jusqu'à la présence du péché. Le péché ne sera plus du tout, sera complètement délivré. Lorsque nous serons enfin glorifié, dit la Bible, que le corps aura rejoint l'âme et puis que nous serons avec le Seigneur, mais il n'y aura plus de traces de péché. Donc on voit bien qu'il y a ce processus, passé, présent et puis aussi futur. Et donc on travaille à notre salut. Donc il y a, le salut, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient et puis c'est terminé. Non, c'est quelque chose dans lequel on vit, dans lequel on progresse. Et on le voit très nettement dans l'Écriture. Et donc, on pourrait dire aussi que la croissance donc, est nécessaire à tout chrétien. Ici, Pierre dit, afin que vous croissiez, il parle à tous ceux qui sont dispersés, tous les chrétiens dont il est question au début de la lettre ici. Et il leur parle à tous, il dit pas afin que certains d'entre vous puissent croître, mais afin que vous tous, vous croissiez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est une croissance qui est indispensable et qui est nécessaire à tous. Ce n'est pas une option. On ne peut pas dire, moi, je choisis de ne pas croître. Oui, lui a envie de croître. Bon, chacun son truc. Moi, je n'ai pas envie de croître. C'est bien comme ça, ça me suffit. Je suis sauvé. Etc. Non, on ne peut pas choisir. Un bébé ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, bon, j'arrête ma croissance. Non, il croit, malgré lui, s'il se nourrit, il croit. Parce que c'est dans le principe même de la vie. Mais ici, spirituellement, c'est la même chose. La croissance, elle est nécessaire pour tout chrétien. Il n'y a pas qu'il soit grand, qu'il soit au Seigneur depuis très longtemps, qu'il vienne de se convertir. Il doit croître dans le salut et pour le salut. Toute absence de croissance témoigne inévitablement d'une absence de vie. Toute absence de croissance témoigne d'une absence de vie. Ça, c'est la première chose. Donc, la croissance est caractéristique vraiment de la vie nouvelle. Et s'il n'y a pas de croissance, et de manière continuelle, c'est qu'il n'y a pas de vie, parce que toute vie a sa propre croissance. Deuxième point ici, c'est que la croissance spirituelle nécessite de se débarrasser de tout péché. Pierre dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc il y a des choses à rejeter. Sinon, on ne peut pas croître. Hein? On ne peut pas faire de progrès dans la vie si on garde les choses. Et si on garde le péché, hein? On dépérit. Hein? Il y a une maladie, je crois, c'est une maladie qui s'appelle la syllogomanie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah, la syllogomanie. Vous chercherez la syllogomanie. Ou alors, ils appellent ça parfois le syndrome de Diogène, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Eh bien, c'est des gens qui ne jettent rien, mais pas simplement qui collectionnent. C'est des gens qui laissent tout s'entasser. Et tellement que leur appartement devient... Ils ne savent même pas trouver le chemin de leur lit, parce qu'il y a tout, des boîtes de pizza vides, aux boîtes de coca, toute la maison est encombrée, ça monte, on entasse, on ne se débarrasse jamais de rien. Et après, les médecins disent que ça crée d'autres maladies, d'autres choses, etc., d'autres déficiences dans la vie. Hein. On ne peut pas être comme cela dans la vie chrétienne. On garde les choses, les péchés s'entassent, etc. Et puis, on va bien se débrouiller. Non, si on laisse les choses ainsi, eh bien, on sera comme ces personnes, incapables de trouver notre chemin. Il faut se débarrasser. C'est ça le terme ici, rejeter tout ce qui crée un obstacle à la croissance. Et l'apôtre Pierre cite un certain nombre de choses. Il y a des choses qui constituent de véritables obstacles à la croissance. Et une bonne croissance nécessite d'enlever tout ce qui s'oppose même à cette croissance. La mauvaise herbe dans un jardin empêche, je peux vous le dire, hein, la croissance du gazon. Il faut l'extraire, sinon il n'y aura pas de joli gazon possible. Et en ce qui concerne la vie nouvelle, je crois que c'est exactement la même chose. Pierre dit que le croyant doit apprendre à rejeter dans sa propre vie, tout ce qui est un obstacle, et particulièrement le péché. Il doit se dépouiller, le mettre de côté, s'en débarrasser. C'est un terme fort hein, qui est exploité ici pour rejeter. C'est vraiment extirper, enlever. C'est comme se défaire, un peu le mot, c'est comme se défaire d'un vêtement souillé pour revêtir un vêtement qui est propre. Hein. Et l'apôtre Paul utilise le même mot différemment en Éphésiens 4, 21-23. Il dit... Si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous dépouiller et vous revêtir. Vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt et se convoitise et tout cela, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Et c'est cela, cette manière qu'il faut rejeter. C'est comme se débarrasser d'un vêtement qu'on sait a été souillé. Là. Il est plein de Covid-19. Hein. Vous le jetez le plus loin, le plus vite possible. C'est ça que ça veut dire ici. Et le temps du verbe indique vraiment une obligation pour le croyant. Il ne saurait y avoir de croissance pour le salut, sans rejet déterminé de tout péché. Et notons que Pierre donne ici une liste de ce qu'il faut rejeter. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ces choses-là qu'on doit rejeter et puis les autres, on peut les garder. Hein. Par exemple, il n'y a pas mentionné la colère, mais ça ne veut pas dire que je peux garder la colère. Non, on doit se débarrasser de tout péché. La place manquerait s'il fallait faire une liste complète des choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle de la malice ou de la méchanceté, c'est le fait d'agir mal envers autrui. Hein. Il parle de la ruse, c'est le fait d'user de duperie, c'est quelqu'un qui cherche à tirer profit vraiment des autres par le mensonge, en trichant. Alors, ça peut être à plusieurs endroits, on peut tricher dans les examens, à l'école, ou dans des choses comme ça, ou avec les impôts, etc. On cherche à tirer profit pour soi en trompant. Hein, en trompant, c'est ça que ça veut dire. Donc le mensonge est intégré ici, donc c'est un péché, n'est-ce pas, qui est extrêmement facile. Hein. Mentir, on ment, ça c'est la chose que je vois qui est la plus facile à faire. Quand je regarde autour de moi, et comment même nous-mêmes des fois, comment on peut être tenté, hein, on ment, c'est incroyable. à quelle vitesse on peut mentir. Pourtant, la Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Et on ment pour tout. Dès que ça nous arrange, on a tendance à mentir. Et Pierre dit ici, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument rejeter. La dissimulation, hein, c'est le mot hypocrisis en grec. Donc c'est, vous, déjà, vous sentez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à hypocrisie, n'est-ce pas? Donc c'est le fait de paraître ce que l'on n'est pas du tout. C'est-à-dire, c'est le spirituel du dimanche qui se comporte comme un charnel toute la semaine. Ça arrive. On est avec les autres, on se comporte bien, on a un langage bien feutré. Et puis, une fois que l'on est dans la semaine, eh bien, on vit comme tout le monde. Hein. Ça s'appelle jouer un rôle, hein, avoir un double visage, être hypocrite. Et on peut l'être aussi dans plusieurs domaines. L'envie, le désir de posséder ce que l'autre a. Parfois, ou de déposséder l'autre de ce qu'il a. Un peu, c'est un peu la même chose. On voit dans la Bible que les sacrificateurs avaient livré, les Juifs avaient livré Jésus par envie. Ils étaient envieux à leur égard. Et l'Écriture dit que l'amour n'est point envieux. L'apôtre Pierre dit ici, voilà, aimez-vous ardemment. Il dit, ben, pour cela, il faut rejeter l'envie, parce que l'amour n'est point envieux. Et puis la médisance, hein, le mot qui est traduit par médisance, c'est un mot qui fait penser à un peu une onomatopée. Il dit catalalia. Catalalia. Hein? Quand on médit des autres. C'est ça que ça veut dire. C'est un mot qui ressemble à, dont le son ressemble à ce qu'il veut dire, quoi. Hein? On va ragoter ta 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 ta. T'as vu ce qu'il a fait, etc. Et on va parler des autres. On va médire. On va dénigrer les autres et dire du mal d'eux. Hein? Donc, toutes ces choses s'opposent à l'amour pour les frères, que Pierre décrit en 1 Pierre 1, verset 22. Et toutes ces choses sont contraires aux caractéristiques de la vie nouvelle et doivent être absolument rejetées avec la plus grande vigueur. Sinon, il n'y aura pas de croissance possible. Il faut extraire les mauvaises herbes pour que la bonne herbe puisse se développer. Alors, je voudrais, dans ce point, ajouter quelques raisons pour lesquelles on devrait se débarrasser de tout péché. Il faut se débarrasser de tout péché car le moindre péché est un obstacle au progrès spirituel. Le moindre péché est un obstacle au progrès spirituel. Parfois, on peut penser que c'est un tout petit péché. C'est quand même pas grand chose. Hein. Quelle que soit la taille, c'est un obstacle à tout progrès spirituel. L'Écriture renferme des exemples où la croissance ralentit lorsque le péché persiste. Alors, juste un exemple, rappelez-vous de Marie et Aaron, la sœur et le frère de Moïse. À un moment donné, la Bible dit que Marie et Aaron, dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 3, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Voilà. On est dans la médisance là, vous voyez. Ils parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? Marie a été frappée de lèpre. C'est un péché devant Dieu. Là. Ils ont parlé, frappée de lèpre. Moïse a dû intercéder pour que Dieu ne les élimine pas et que Dieu la guérisse. Il a demandé à Dieu, guéris-la. Tu vois, il a vraiment, c'est comme un cri quand on voit, c'est un frère qui prie pour sa sœur, quoi, pour sa grande sœur. Et puis, Dieu dit quand même ici, si son père lui avait craché au visage, elle aurait été mise hors du camp pendant 7 jours. Alors, qu'elle soit mise hors du camp pendant 7 jours. Elle a été mise hors du camp pendant 7 jours. Vous savez ce que ça a fait? Eh bien, pendant 7 jours, le peuple était arrêté. Marie était arrêtée. Et la Bible dit que le peuple n'est pas parti. C'est un détail, mais il est important. Si la Bible dit, c'est pas que c'est important. Il n'est pas parti. Et puis après, au bout des 7 jours, il dit que le peuple a pu partir à ce moment-là. Donc, non seulement ça a freiné Marie, certainement Aaron, mais ça a aussi freiné le peuple. Et ce n'était pas grand-chose. On aurait pu dire, mais quand même, ils n'ont pas tué quelqu'un. Juste un petit... Après tout, c'est vrai que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Hein, on n'a fait que dire la vérité. C'est vrai que, bon, Dieu peut aussi parler, parce que ce qu'ils avaient, il y avait un petit peu d'ambition dans leur cœur, hein, parce qu'ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle, hein? Après tout, voilà, hein, nous sommes aussi, Dieu peut parler aussi par nous, c'est ce qui est vrai. Il peut le faire aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais le fait de dire et d'avoir ce sentiment, même à deux, contre quelqu'un, Dieu l'entend et Dieu punit sévèrement. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas sévèrement la punition de Dieu. Donc on continue. Mais on voit qu'aux yeux de Dieu, c'est très grave. Et Dieu leur dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Parfois, on peut parler contre des serviteurs de Dieu. Et quand je dis serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui sont responsables de l'Église, mais chacun, nous sommes, on l'a vu ça hier avec les frères, nous sommes les serviteurs de Dieu. Là où nous sommes placés, on peut parler contre notre frère, etc. Et on voit à quel point c'est grave. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une pécadille, hein, comme pourraient dire certains. C'est petit par... ça nous semble petit, hein. Ça nous semble vraiment rien à côté d'un meurtre, n'est-ce pas? J'ai dit quelque chose, ouais, j'ai parlé du frère, j'ai dit qu'il a fait ça. C'est vrai, bon, j'aurais pas dû dire, mais c'est quand même pas un meurtre, je l'ai pas tué. D'accord? Mais ce qui fait la grandeur du péché, c'est pas la taille qu'on lui donne, c'est la grandeur du Dieu souverain qui est, du législateur qui est au-dessus. Et c'est lui qui est offensé quand nous péchons. Et donc, il faut se débarrasser de tout péché parce que le péché est un obstacle au progrès spirituel. Il faut aussi se débarrasser du péché. Parce que le péché est ce qui pousse le plus naturellement dans notre vie. Le péché est ce qui pousse le plus naturellement dans notre vie. C'est comme la mauvaise herbe dans mon jardin. Je me demande, je dis, mais pourquoi c'est pas la bonne herbe qui est comme la mauvaise herbe? Ça aurait été bien ça, hein? On fait rien et le gazon pousse tout seul, hein? Ça marche pas. Naturellement, c'est la mauvaise herbe qui pousse. Et l'exhortation de Pierre à rejeter le péché montre à quel point ces choses poussent naturellement dans notre vie, même si nous ne voulons pas le croire. Nous aimons naturellement nous attacher au péché. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le péché est attaché dans nos cœurs. Hébreux 12 dit ceci. C'est un passage dans lequel on est amené aussi à rejeter, comme l'apôtre Pierre le dit, tout fardeau, il dit, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe, comment? Si facilement, d'accord? Donc ça pousse le plus naturellement qui soit. Et ce texte nous dit avec quelle facilité le péché nous enveloppe et nous empêche, dit-il même après, il dit, de courir. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Le péché s'entasse et il finit par obstruer la vie. Il rend incapable d'aimer, comme Pierre le dit en 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Et il rend impossible tout progrès et toute sanctification. Et il faut aussi se débarrasser de tout péché, parce que le péché ne disparaît pas de lui-même. Les péchés ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Vous avez déjà vu ça? Comme la mauvaise herbe dans le jardin. D'accord? Elle peuvent être plus ou moins visibles, suivant la saison. En hiver, elles sont moins visibles. Mais au printemps, elles sont là, elles vous sourient. Hein? Comme il faut, d'accord? Et si vous ne les arrachez pas, si vous n'extirpez pas jusqu'à la racine, ça ne disparaîtra pas tout seul. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Aucun péché ne disparaît tout seul. Il doit être ôté, il doit être abandonné. On doit s'en détourner au prix d'efforts continuel. Si nous laissons le péché sans l'extirper, non seulement il ne disparaîtra pas, mais il cherchera à se développer toujours, toujours et toujours plus. C'est comme la mauvaise herbe. Vous voyez, vous avez un rosier, puis vous voyez au beau milieu des roses, il y a un gros truc qui monte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on l'a laissé pousser, puis maintenant il prend la place. Et un théologien puritain qu'on a étudié il y a quelque temps a dit ceci, s'appelle John Owen, il a dit que le péché vise en permanence à se développer pour atteindre le maximum de sa catégorie. Comme ça que ça fonctionne. Pas croire que ça reste là comme un petit animal qui ne grandit jamais, hein. D'accord? Il pousse en permanence de manière à atteindre le maximum de sa catégorie. Le péché, dit-il, vise toujours le maximum. Chaque fois qu'il se lève pour tenter ou séduire, s'il avait libre cours, il irait vers le péché le plus haut de sa catégorie. Chaque regard ou pensée impure serait un adultère s'il pouvait. Chaque désir envieux serait une oppression. Chaque pensée d'incrédulité serait de l'athéisme s'il pouvait croître jusqu'à maturité. Si on laisse, les choses vont aller jusqu'à leur pleine maturité. Et c'est pour cela qu'il faut absolument s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de tout péché, car le péché ne disparaît pas de lui-même. Et non seulement il ne disparaît pas de lui-même, mais il va se développer jusqu'à atteindre sa pleine maturité. Et c'est, je trouve que c'est très, très bien dit ce que cet homme a dit il y a bien longtemps déjà. Donc, la croissance spirituelle, n'est-ce pas, est caractéristique de la vie nouvelle, de toute vie nouvelle. On a vu que la croissance spirituelle implique que l'on se débarrasse de tout péché. Et troisièmement, on veut considérer que la croissance spirituelle exige de cultiver un appétit insatiable, ardent, pour l'Écriture. La croissance spirituelle exige de cultiver un appétit insatiable pour l'Écriture. Regardez ce que notre texte dit. On revient donc à 1 Pierre chapitre 2 et au verset 3. Au verset 2, hein, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, je vais tout lire. Hein. Il dit « Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. » La croissance et la nutrition sont intimement liées, je crois. Je crois que je ne donne pas de scoop quand je dis ça. Un enfant qui ne mange pas ne se développera pas normalement. Et la malnutrition se manifeste par une malformation, donc quelque chose qui ne va pas dans la croissance. Et l'apôtre Pierre indique donc que la nourriture est d'une importance capital dans le développement spirituel. Ce que l'on mange spirituellement est capital dans le développement spirituel. Et nous pouvons donc constater que chaque vie a sa nourriture appropriée. Les plantes ont leur nourriture. On donne des choses pour les nourrir, pour les faire pousser. Les animaux ont leur nourriture. Les humains ont leur nourriture. Et l'homme spirituel, l'être né de nouveau, le chrétien, a aussi, puisqu'il a une vie nouvelle, sa nourriture. La vie nouvelle a sa propre nourriture. Alors, premièrement, la parole de Dieu est la nourriture nécessaire et suffisante du chrétien de tout âge, pour tout chrétien. La parole de Dieu est la nourriture nécessaire et suffisante pour tout chrétien de tout âge. Pierre parle ici du lait spirituel et pur. Il définit la parole comme le lait spirituel et pur. Alors, quand on parle de lait, ça nous fait penser à ce qu'on donne aux bébés, hein, même s'il y a des adultes qui prennent le lait. Hein, mais ça fait penser à ce qu'on donne ici aux bébés. Mais il dit voilà, que la parole, c'est comme le lait que l'on donne aux nouveau-nés. C'est une nourriture spirituelle, c'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle et qui est pure, sans défaut, non frelatée. C'est vraiment la nourriture, hein, par excellence qu'il faut pour le croyant. C'est le lait spirituel et pur. Et c'est par ce lait, dit Pierre ici, que l'on croit pour le salut, afin que par lui, par le lait spirituel et pur, vous croissiez pour le salut. Donc s'il n'y a pas de lait spirituel et pur, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Et s'il n'y a pas de croissance spirituelle, c'est qu'il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas eu cette parole qui a été implantée. Le lait est utilisé ailleurs dans l'Écriture, hein, parfois, mais pas forcément dans le même sens. Alors, c'est important de comprendre comment Pierre utilise le lait ici. Dans 1 Corinthiens, je vais prendre deux autres passages où il est utilisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. » Donc ici, l'apôtre Paul parle du lait en opposition à la nourriture solide. Autrement dit, le lait, la nourriture adaptée pour les petits qui n'ont pas encore les dents, qui peuvent pas encore mâcher les choses, et puis la nourriture solide pour les hommes faits qui peuvent supporter les féculents, tout ce que vous voulez. Hein. Un peu c'est ce qu'il dit, mais là il parle sur le plan spirituel. Il dit « Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas jusqu'à présent. » Ils sont pas capables de supporter la nourriture solide. Dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13, on a à peu près la même chose. Il est dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Encore là, encore, on a l'opposition entre le lait, c'est-à-dire les principes de base, quoi, les principes élémentaires, ce qu'on donne aux petits bébés spirituels qui viennent de naître, voilà, les rudiments de la parole de Dieu, et pas la nourriture solide. Et il dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Donc voilà ici, les deux utilisations là dans 1 Corinthiens 3 et dans Hébreux chapitre 5 sont une utilisation dans laquelle le lait, dans les deux cas, constitue la parole de Dieu, hein, mais constitue le fait des éléments basiques de la parole de Dieu par rapport aux éléments solides de la parole de Dieu. Donc ce qu'on donne aux jeunes chrétiens quand ils viennent de se convertir, et puis en opposition à ce qu'on donne aux chrétiens matures qui a déjà fait des progrès dans sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas dans ce sens que l'apôtre Pierre utilise le lait ici. Quand il dit « désirer le lait spirituel et pur », il parle à tous les chrétiens. Il parle pas seulement aux nouveau-nés. Alors, il parle aux nouveau-nés, bien sûr, il parle aussi aux nouveau-nés, mais il parle aussi aux chrétiens qui sont dispersés dans l'Asie, la Cappadoce, le Pont, là, etc., comme il est dit au début du verset. Donc, des chrétiens de tous âges. Et ce qu'il leur dit, c'est que il faut qu'ils désirent le lait, c'est-à-dire comme le bébé désire le lait, que le lait soit leur nourriture principale, que cette parole de Dieu soit leur nourriture principale. Donc le lait désigne ici toute la parole de Dieu dans sa pureté, dans son utilité, dans sa capacité à faire croître ici le croyant. Donc, de même que le lait est tout ce qu'il faut pour le nouveau-né, la parole de Dieu est tout ce qu'il faut au croyant. C'est un petit peu cette manière-là qu'on pourrait le résumer. Je le redis, de même que le lait est tout ce qu'il faut pour le nouveau-né, la parole de Dieu est tout ce qu'il faut au croyant, quel que soit son degré de maturité. D'accord ? Alors, il peut avoir dans la vie courante, on peut dire, moi, je bois plus de lait, hein, parce que, bon, j'aime pas le lait. Moi, je bois pas de lait, hein, parce que depuis très longtemps. Alors, je mange des produits laitiers, mais je bois pas de lait. Mais il peut avoir des gens qui ne boivent ni produits laitiers, ni lait, etc. Ça va pas gêner leur croissance. Mais dans la vie spirituelle, ici, par rapport à ce verset, le croyant peut pas dire, moi, j'ai pas besoin de lait, ok? Si, on a besoin du lait que constitue la parole. C'est-à-dire, on a besoin de considérer la parole comme la seule nourriture qui nous est indispensable. Alors, Pierre ne dit pas ici, désirer de bons livres. Il dit pas désirer de bons cultes. Il dit pas désirer de bons sermons. Il dit pas désirer une bonne église. Désirer voir tel bon film chrétien. Et toutes ces choses sont certainement bonnes en soi. Mais ce que le cœur de l'homme doit rechercher, le cœur du croyant vraiment doit rechercher, c'est la parole de Dieu. Il doit désirer Dieu et sa parole. Et bien sûr, rencontrer et trouver Dieu, Jésus-Christ, à travers la parole. On peut aimer toutes ces choses que j'ai citées, les bons sermons, la belle église, etc., sans désirer la parole de Dieu. C'est possible. On peut aimer, écouter, Les gens qui aiment ça, écoutez, on écoute des tonnes. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait, oui, j'écoute beaucoup de sermons, mais je ne lis pas la Bible. Je dis, c'est bien que tu lises toi-même aussi, que tu médites toi-même. Okay? Donc, on peut faire ces choses. Seule la parole de Dieu doit constituer notre nourriture nécessaire et suffisante pour notre croissance spirituelle. Elle doit vraiment être le fondement de tout ce qu'on fait. On écoute une prédication, mais il faut que la parole soit le fondement de cette prédication. Elle est l'unique règle, nous avons dit, en matière de foi et d'obéissance. Ça, c'est notre catéchisme. Une caractéristique, chers frères et sœurs, chers amis, de la fin des temps, c'est l'aversion pour la parole de Dieu. Ce que l'apôtre Paul dit en 2 Timothée, il dit « Prêche la parole !» Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure avec douceur et en instruisant. Là, on est en train de travailler avec la parole. Il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Et c'est ce qu'on fait. On a maintenant la possibilité de zapper, d'aller sur les réseaux, d'écouter ce qu'on a envie d'écouter, quand on a envie de l'écouter, par la personne qu'on a envie d'écouter. D'accord? Et l'apôtre Paul dit, ça c'est une caractéristique des derniers temps. Et les gens parfois, on peut s'écarter ainsi de la saine doctrine. Il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne sans attachement à la parole de Dieu. Et souvenons-nous ce que Jésus lui-même a dit dans sa prière avant sa crucifixion. Il a dit dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc la parole de Dieu, chers frères et sœurs, est la nourriture nécessaire et suffisante pour les chrétiens de tout âge. Mais notez quand même que ce que Pierre dit ici, il ne dit pas « lisez la parole ». Il ne dit pas « prêchez la parole ». Il ne dit pas « mémorisez la parole ». Il dit désirer. Et comment la désirer? Comme un nouveau-né. Cela nous oblige à réfléchir comment un nouveau-né désire le lait. Vous avez déjà vu un nourrisson qui désire du lait? Qui n'a jamais vu ça? Je pense que tout le monde a déjà vu ça ici. Hein? Tout le monde a déjà vu un nourrisson qui désire du lait ici. Eh bien, c'est la seule chose qu'il veut. D'accord? Quand il a faim, vous le savez. D'accord? Alors, quand les enfants grandissent et que vous voulez qu'ils mangent, il faut les appeler, n'est-ce pas, pour qu'ils mangent. Mais quand le nourrisson a faim, c'est pas vous qui l'appelez pour manger. C'est lui qui vous appelle. Il est tout petit, il sait pas parler, sait pas marcher, il n'a pas de force, mais il vous appelle et vous êtes au pas parce que ça hurle. D'accord? Et tout ce qu'il veut, c'est le lait maternel ou le biberon. Vous pouvez lui présenter un beau samoussa. C'est bon les samoussas indiens. D'accord? Il criera. Ou faites-lui miroiter un billet de 100 euros. Dites-lui, avec ça, tu peux acheter des litres et des litres de lait. Il va faire quoi? Il va hurler. Tout ce qu'il veut, c'est le lait maternel. Et vous lui donnez le lait maternel. Et là, il y a une satisfaction. Et c'est cette image que Pierre veut inculquer dans notre pensée. Il dit, vous devez désirer plus que toute autre chose la parole de Dieu et Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas dissocier la parole de Dieu et Dieu. Vous devez, comme un bébé ne veut que ces choses, eh bien, vous devez avoir un appétit démesuré. C'est pas trop. Insatiable, ardent, pour la parole de Dieu. Et vous devez la voir à l'image du nourrisson. Donc Pierre fait porter vraiment l'accent, non pas sur le fait de manger ou de boire la parole, ce qui est important, mais sur l'ampleur du désir qui pousse vers la parole. Il parle donc de l'appétit que l'on doit avoir. On peut manger sans appétit. On peut manger sans avoir l'appétit. On mange parce qu'on sait qu'il faut qu'on mange. Ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Donc on peut lire sans appétit la parole de Dieu. On lit des passages, des chapitres. J'ai lu 25 chapitres. Oui, mais on peut lire 25 chapitres sans appétit. ce que Pierre dit, c'est qu'on doit être mu par le désir de cette parole et de Dieu à travers sa parole. Un peu comme il est dit dans les psaumes. Je vous lis trois passages dans le psaume 119, où il dit, ça c'est le grand psaume qui parle vraiment de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 20, il dit, « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Psaume 119, verset 40 dit, « Voici ce que je désire pratiquer. » Il dit, « Voici, pardon, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. » Et puis, 119, verset 31, il dit, « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » C'est cette attitude que Pierre dit que l'on doit avoir, que celui qui est né de nouveau doit avoir à l'égard de la parole. S'il veut croître, il doit cultiver un appétit insatiable pour la parole de Dieu et pour Dieu lui-même. Et notons que cette faim-là n'est pas naturelle. Elle se cultive, parce que Pierre dit « désirez ». Faites-le. C'est quelque chose que l'on doit apprendre. Cela signifie qu'il y a des choses à faire pour désirer cette nourriture. Si vous donnez, quand on a grandi, si on mange ce qu'on ne doit pas manger, lorsque le moment de manger sainement arrive, on n'a plus faim du tout. Et parfois, on mange spirituellement ce qu'on ne doit pas manger. On se nourrit de lecture, de films, de réseaux sociaux, de tout un tas de choses. D'accord ? Et puis, la parole de Dieu paraît insipide, elle n'a pas de goût. Un peu comme le peuple d'Israël. Vous vous rappelez le peuple d'Israël, quand il a été délivré de l'Égypte, à un moment donné, Dieu donne quoi ? De la manne, le pain qui descend du ciel. Ça avait un goût de gâteau de miel. Mieux que les samoussas encore, il paraît. D'accord ? Et savez ce que le peuple dit à un moment donné ? Il dit, notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Vous imaginez ? Dieu donne le pain du ciel et le peuple dit que c'est de la nourriture misérable. Mais des fois, dans notre attitude, c'est ce que nous pouvons faire. Lorsque nous nous gavons de télé, nous nous gavons d'informations, de je sais pas quoi, nous nous gavons de toute autre chose, et puis nous n'avons jamais le temps de lire la parole, ou nous lisons rapidement, comme si c'était une nourriture méprisante. D'accord ? C'est ce que nous faisons. Et le fait de nous gaver avec autre chose nous prive de développer un appétit pour les bonnes choses, pour la parole de Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et notez que Pierre donne une raison à cela. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez la parole, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et c'est une citation du psaume 34, verset 9 ou verset 8, selon la version que vous avez, où dans ce psaume, il est vraiment question de faire confiance à Dieu. David, il avait été, l'épisode où David avait dû jouer au fou, hein. Il a laissé la bave couler sur sa barbe, il a gratté les murs, il a joué vraiment au fou pour que sa vie puisse être épargnée. Et après, il compose ce cantique et puis il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est comme ça qu'il commence. Et puis après, il dit, venez goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Il a goûté à la délivrance de Dieu, il a goûté à la protection de Dieu. Et il dit, en tant que chrétien, si vous avez goûté à cette délivrance du salut, ce que Dieu vous a accordé, vous avez goûté les grâces de Dieu, vous avez déjà au début de votre vie chrétienne, vu comment vous avez lu la parole et ça vous a fait du bien, comment ces choses ont été excellentes pour vous. Il dit, vous avez, pas si vous l'avez fait dans le sens conditionnel, mais puisque vous l'avez fait, alors revenez à cette parole. Désirez-la encore davantage. Désirez le Seigneur. Donc Pierre appelle, il rappelle à ses lecteurs leur expérience. Il les appelle encore à continuer cette expérience qui consiste à désirer, à se nourrir pleinement de la parole de Dieu. Je termine, chers frères et sœurs, en disant ceci, c'est que le principal besoin du croyant, c'est vraiment de croître dans le salut. Nous avons besoin de croître dans le salut. Ça n'est pas une option. Quel est votre progrès spirituel si vous dites être enfant de Dieu depuis que vous avez reçu Christ? Ce texte nous pousse à faire un bilan. Hein? Quel est notre progrès spirituel? L'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens, il dit « Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Vous voyez le lien entre le progrès dans la foi et l'augmentation de l'amour. C'est ce que Pierre dit ici, la croissance dans le salut et l'amour les uns pour les autres. Il dit « Votre amour grandit les uns pour les autres. Votre foi fait des progrès. » Et nous louons Dieu pour cela. C'est ce qui anime, qui est le sujet de louange de l'apôtre Paul. Nous avons besoin de croître. Et donc, si nous constatons que nous ne croissons pas, ce texte est un appel à ce que nous allions au pied du Seigneur et que nous confessions ce qui ne va pas, que nous nous débarrassions de ce qu'il faut nous débarrasser. Et puis, que nous désirions sa parole, que nous prions pour qu'il fasse naître en nous ce désir pour sa parole. Le psalmiste disait, dans le psaume 19, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » C'est-à-dire, il demande à Dieu de basculer son cœur vers la parole. On peut faire cette prière à Dieu aussi. Deuxième point d'application, c'est que le problème avec lequel je dois traiter dans ma vie chrétienne est toujours celui de mes péchés. On pense toujours que je ne fais pas, on peut penser qu'on ne fait pas de progrès parce que c'est la faute des autres. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon voisin, ou c'est les circonstances, ce sont les circonstances. D'accord. Ce que l'apôtre Pierre dit ici, il ne dit pas « faites attention aux autres, ils sont hypocrites, ils sont rusés, ils sont envieux, ils sont médisants, éloignez-vous d'eux ». Il ne dit pas ça, Pierre, il dit « rejetez toute méchanceté, toute ruse, etc. » Sous-entendu qu'il y a chez vous, dans votre propre cœur. Et partout dans l'Évangile, quand nous sommes appelés à lutter contre le péché, c'est toujours contre le nôtre. Jamais contre celui des autres. Colossiens 3, 5 dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Il y a encore beaucoup d'autres choses. J'ai cité une partie du verset. Et toutes ces choses sont des obstacles à la vie chrétienne. Toutes ces choses sont incohérentes avec la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et donc, il est important pour nous de nous ausculter, de voir où est-ce qu'on en est dans ces choses. Et puis, je dirais que le désir pour la parole le désir que l'on doit avoir pour la parole implique d'écarter toute autre chose de notre vie. Quel appétit nous avons? Pourquoi? Pour toi de nous poser cette question. Où sont mes appétits? Qu'est-ce que j'aime manger spirituellement? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que ce sont des choses qui sont compatibles avec une vie nouvelle en Jésus-Christ? Où en est ma faim, ma soif pour l'Écriture, pour Jésus-Christ, pour la parole? Si ces choses ne sont pas, nous savons que nous avons besoin d'aller au Seigneur et de prier. Le désir vient en goûtant. Hein. On apprend à aimer les bonnes choses quand on goûte les bonnes choses. Donc si on n'a pas d'appétit ou peu d'appétit pour la parole de Dieu, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la parole de Dieu. Et on développera l'appétit. Notre problème est souvent un problème d'appétit. J'ai lu cette histoire d'un homme d'un prédicateur qui avait quelqu'un de son église. Il y avait deux cultes, et puis je crois, et puis un le matin, le soir, et puis le frère n'est pas venu dans le deuxième, et puis il dit, je t'ai pas vu au culte de l'après-midi. Non, c'est lui-même qui dit, je suis pas venu au culte de l'après-midi parce que j'ai du mal à digérer deux sermons dans une journée, quoi. Et le prédicateur lui a dit, ton problème n'est pas un problème de digestion, un problème, mais c'est un problème d'appétit. Hein? Et parfois, on pense que j'ai du mal à... Notre problème, c'est l'appétit. Hein? Notre appétit est charnel lorsque la nourriture est spirituelle. Et nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne cet appétit. Et si le texte est là, c'est parce que nous pouvons... Il nous secoue peut-être, mais il nous pousse à aller vers le Seigneur et à demander ces choses. Puisque nous avons été régénérés, puisque vous avez été régénérés, dit l'apôtre Pierre, alors rejetez toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance, et désirez comme des enfants nouveau-nés l'air spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, qui est la vérité. Et nous devons confesser combien peu nous avons parfois de l'appétit, combien nous laissons les mauvaises nourritures dans notre vie. Nous te prions que tu agisses dans nos cœurs, que tu ouvres nos yeux à chacun, que tu nous montres à chacun les domaines dans lesquels nous avons besoin de rejeter le péché et de désirer encore davantage ta parole. Nous savons que nous ne pouvons pas faire ces choses par nous-mêmes, de même qu'un nourrisson ne peut pas grandir par lui-même, que personne ne grandit par lui-même, nous ne pouvons pas croître spirituellement par nous-mêmes, parce que c'est toi qui fais croître. Mais tu nous demandes, Seigneur, de désirer néanmoins le lait spirituel et pur. Et donne-nous de venir, d'être obéissant, de venir à ta parole et de la méditer, de faire d'elle la joie et l'allégresse de notre cœur et de te chercher à travers elle. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.